franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. La fin d'une occupation de 3 ans. Après 4 mois de combat, la ville de Raqqa, fief du groupe État islamique en Syrie, est sur le point de tomber. De nombreux combattants se seraient rendus à la coalition. La colère en Iran après la remise en cause par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Téhéran dénonce des propos haineux. Pas arrogant, mais déterminé, Emmanuel Macron se confie au Spiegel avant TF1 demain soir. Il assure ne pas être déconnecté des Français, bien au contraire. Dans ce journal également, des partisans de Notre-Dame-des-Landes qui manifeste à Nantes. Un nouveau satellite pour l'observation de la Terre et l'évolution du climat. C'est le droit de suite de ce samedi 13h, près de 2 ans après la COP21. Un théâtre sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, c'est ce que raconte un spectacle du Festival des Arts à Bordeaux. Prescription culture signée Stéphane Capron. Et puis la météo, c'est très simple, c'est l'été, du beau temps partout. C'est sans doute l'épilogue à Raqqa, le fief du groupe État islamique en Syrie, où de nombreux combattants se seraient maintenant rendus aux forces démocratiques syriennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, des autocars auraient même commencé à évacuer les civils. Mélanie Houé à Beyrouth.
Après 4 mois de combat, Raqqa est sur le point d'être libérée. La capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie pourrait tomber dans les prochaines heures. D'après un porte-parole des forces démocratiques syriennes, cette alliance de combattants arabo-kurdes soutenue par la coalition internationale. Un convoi de plusieurs dizaines de bus est arrivé dans la nuit dans le fief syrien des djihadistes pour procéder, d'après un journaliste présent sur place, à l'évacuation des civils toujours pris au piège de la guerre. Estimé au nombre de 5 000, d'après l'ONU, il devrait être transféré dans le camp de réfugiés d'Aïn Issa, situé à 50 km au nord de Raqqa. Si l'OSDH indique que les derniers soldats du califat autoproclamé ont quitté la ville, les forces démocratiques syriennes assurent que des djihadistes étrangers, toujours présents, réclament leur exfiltration vers la province de Deir ez-Zor, le dernier bastion du groupe État islamique en Syrie. Mais pour l'heure, les FDS restent implacables et refusent de les laisser partir. Mélanie Houé, Beyrouth, France Inter.
Parallèlement, en Irak, les Kurdes annoncent que le gouvernement de Bagdad leur a donné jusqu'à ce soir pour se retirer sur leur position d'avant 2014. Les Peshmerga, qui participaient activement au combat contre Daesh, s'étaient avancés dans la province de Kirkuk, revendiquée par le Kurdistan autonome. En Iran, la colère et la moquerie au lendemain de l'annonce par Donald Trump qu'il décertifiait l'accord sur le nucléaire en attendant de le renforcer. Téhéran dénonce des propos haineux et belliqueux pour le président Hassan Rouhani. Les États-Unis sont plus que jamais seuls contre le peuple iranien. Des Iraniens passablement irrités aussi par l'emploi du terme « golfe arabique » en lieu et place de « golfe persique » à Téhéran, Savioche Ghazi.
C'est le terme « golfe arabique » utilisé par Donald Trump à la place de « golfe persique » qui a provoqué la colère des Iraniens connus pour leur nationalisme. Depuis vendredi soir, les Iraniens ont pris d'assaut les comptes Twitter et Instagram du président américain avec 1 million de commentaires sur sa page Instagram. Les réseaux sociaux ont publié des photos des pierres tombales et des médailles de courage de soldats américains morts dans la région, portant la mention « golfe persique » en demandant à Trump de les regarder plusieurs fois par jour pour mieux apprendre la géographie. Le golfe persique existait avant même que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique, a écrit un internaute sur la page Instagram du président américain. Sur le plan politique, malgré la virulence de ses propos, le président américain n'a pas osé classifier les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pays, parmi les organisations terroristes. Téhéran souligne également que les Européens et la Russie ont immédiatement rejeté la décision de Donald Trump contre l'accord nucléaire, signe de l'isolement des États-Unis. Téhéran, Siavosh Kiazi, RFI pour France Inter.
Jusqu'à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui donne satisfecit à l'Iran en rappelant que les vérifications sont solides et que les engagements de Téhéran à ce jour sont parfaitement appliqués. En politique, il n'est pas arrogant, il est déterminé. En attendant son entretien télévisé demain soir sur TF1, Emmanuel Macron répond ce matin aux questions de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, auquel il dément d'être déconnecté des Français, alors qu'au contraire, dit-il, il adore leur parler et les convaincre, mais sans succomber à la démagogie et aux mensonges. Cyril Sauvageau, vous avez lu cette interview.
Un président n'a pas besoin d'être aimé. L'important est de faire avancer son pays. Avec cet entretien fleuve accordé au Spiegel, l'hebdomadaire de référence outre-Rhin, Emmanuel Macron poursuit un double objectif, s'adresser au peuple allemand et répondre à ses détracteurs en France. On le dit arrogant, distant, je suis juste déterminé, rétorque le chef de l'État. Je passe beaucoup de temps à parler avec les Français, moins avec les journalistes. Je veux mettre fin à la connivence entre les médias et les politiques. Quelques jours après sa visite très commentée en Allemagne à la Foire du Livre de Francfort, le président de la République réaffirme aussi son ambition de renouveler le rêve européen pour contrer le défaitisme des eurosceptiques. Pour avancer, la France a besoin d'une Allemagne et d'une chancelière forte. Élogieux, Emmanuel Macron salue une nouvelle fois le courage d'Angela Merkel et se confie sur leur relation très étroite depuis son arrivée à l'Élysée. Il n'aurait jamais, dit-il, prononcé son discours sur l'Europe à la Sorbonne sans s'être mis d'accord au préalable avec la chancelière. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Emmanuel Macron qui va devoir convaincre du bien fondé de sa politique qu'il veut de droite et de gauche, ce que ne veut pas croire Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre qui le dit au Monde. La politique de ce gouvernement n'est pas à gauche, c'est certain, et je le regrette, ajoute Bernard Cazeneuve, car si le sentiment d'injustice gagne, les réformes seront compromises. À Nantes, la parole à la défense, ce sont les partisans du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui ont manifesté ce matin devant Nantes Atlantique, en appelant le gouvernement à ne pas revenir sur cette décision validée par un référendum local. Le gouvernement, dont un ministre au moins, Nicolas Hulot, n'est pas favorable au projet, mais qui attend le résultat d'une médiation lancée en juin et dont les conclusions devraient être rendues en décembre. Du côté des élus de Loire-Atlantique, ce qu'on attend, c'est qu'Emmanuel Macron se prononce clairement sur le sujet. Franck Louvrier, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, au micro de Pascal Boucherie.
Hulot, t'es foutu ! Les riverains sont dans la rue !
C'est important que cette prise de conscience ait lieu, notamment avant l'intervention du chef de l'État demain soir. Je pense que le chef de l'État doit avoir un message très clair à l'endroit de ce projet qui a été à la fois voté, validé démocratiquement en matière de justice et qui est très demandé par les habitants de cette région. Je vous rappelle que son prédécesseur a organisé une consultation sur ce territoire. Donc je pense que c'est normal que ce sujet vienne à un moment donné pendant l'heure d'intervention du chef de l'État.
Et vous attendez une position ferme et tranchée de sa part ?
Écoutez, limpide en tout cas, parce qu'on le sait très bien, pendant la campagne, il avait plutôt adressé un message positif à l'endroit de ceux qui souhaitent ce nouvel aéroport. Maintenant, on attend des résultats. Nous n'avons toujours pas été en témoin de l'évacuation de la ZAD. Nous souhaitons que ce soit fait immédiatement et puis ensuite que cet aéroport puisse se construire rapidement.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
C'est un week-end d'été. Partout en France, on s'est remis en terrasse des cafés. On va y revenir. Cette semaine était justement consacrée au climat, à ses évolutions, aux engagements de la COP21. C'était il y a un peu moins de 2 ans à Paris. Et c'est le droit de suite de ce samedi 13h, alors qu'un nouveau satellite européen dédié à la surveillance de l'atmosphère a été lancé hier midi de Russie. Un colloque était organisé à Toulouse par l'Académie du ciel et de l'espace pour faire le point sur les moyens mis à disposition des scientifiques pour évaluer la situation, Stéphane Iglesis.
L'un des scientifiques présents au colloque a pris un exemple concret. Les émissions de gaz à effet de serre déclarées par la Chine, un pays immense avec une population gigantesque, sont égales à celles de l'Allemagne, ce qui mérite au moins d'être vérifié. Les scientifiques espèrent donc que les satellites pourront servir de sentinelles de l'espace. François-Marie Bréon, directeur adjoint du laboratoire des sciences et du climat à l'université de Versailles, prend l'exemple du CO2, le gaz carbonique.
Si on veut vraiment avoir un accord contraignant entre les États de limitation des émissions de CO2, ça serait bien d'avoir un moyen de les vérifier. Et évidemment, donc, ce moyen, le mieux, ça serait de l'avoir depuis l'espace. Je pense que ça va être difficile. Si on veut mesurer les émissions à 10% près, à 10 ans, ça me paraît crédible, difficile. Mais crédible. Mais je pense que pour vérifier des accords de type la COP21, on a besoin plutôt de précisions de l'ordre du pourcent. Et ça, je pense que c'est pas possible.
Pour tenir les engagements de la COP21, notamment pour le méthane, avec un peu de volonté, les résultats peuvent être rapides. Philippe Bousquet est professeur au laboratoire des sciences du climat, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines.
En réduisant par exemple les émissions des décharges, en travaillant sur le régime alimentaire du bétail, en ayant une meilleure, moins d'émissions de méthane, en travaillant sur la culture du riz aussi, mais qui peut-être émettre moins de méthane dans certaines conditions, en évidemment bouchant les fuites fuites de gaz ou en colmatant les fuites de gaz des réseaux des gaziers, etc., etc. Donc on a un ensemble de leviers d'action qui en plus se verront rapidement puisque le méthane, contrairement au CO2, reste peu de temps dans l'atmosphère. Et donc en une décennie, en prenant des actions, on pourrait réduire là aujourd'hui de 15 à 20% je pense les émissions de méthane.
Cette surveillance par satellite reste compliquée, notamment pour suivre en détail les engagements précis de la COP21. Ça ne veut pas dire pour autant que l'accord de Paris est un vœu pieux, du moins théoriquement. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
En ligne pour ce droit de suite, Pascale Ultré-Guérard, bonjour.
Bonjour.
Directrice adjointe de la programmation de l'international et de la qualité au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, anciennement responsable du programme d'observation de la Terre. Alors hier a donc été lancé Sentinelle 5, satellite d'observation de l'atmosphère. Les scientifiques ont besoin de satellites, on n'en a pas encore assez?
Non, effectivement, les scientifiques n'ont pas encore assez de mesures et ils nous en réclament sans cesse davantage. Je citerai juste un exemple, c'est que les scientifiques ont établi une liste de 50 variables climatiques essentielles qui, comme leur nom l'indique, sont essentielles à suivre de façon continue dans le temps pour bien comprendre le fonctionnement de la machine climatique. Et sur ces 50 variables climatiques essentielles, 26 ne peuvent être bien définies que grâce aux satellites. Donc vous voyez, on a du travail.
Alors le programme européen de surveillance de la Terre, appelé Copernicus, a été lancé il y a de nombreuses années déjà, hein, novembre 2010 à peu près. Aujourd'hui, une variable sur deux utilisée par le GIEC, le groupement des météorologistes internationaux, vient des satellites.
C'est ça, c'est ce que je vous disais, hein, plus de la moitié de ces variables climatiques essentielles sont bien connues grâce aux satellites. On peut citer l'exemple du niveau des océans. Les satellites sont capables de mesurer les variations du niveau des océans au centimètre près. Et on sait que l'élévation du niveau des océans est un indicateur essentiel, hein, fondamental du réchauffement climatique. Donc les scientifiques ont besoin de suivre ce paramètre de façon homogène sur l'ensemble de la surface des océans pour bien comprendre comment la machine climatique se comporte.
Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui
Alors, quel domaine ? Les gaz à effet de serre, vous l'avez bien expliqué dans votre reportage, est un vrai défi qu'il nous faut relever, nous, agences spatiales du monde entier, puisqu'en effet, un certain nombre d'agences se penchent sur ce sujet. Les Japonais ont ouvert le bal avec GOSAT, puis ensuite il y a eu la NASA avec OCO. Les Chinois ont lancé l'année dernière un satellite qui s'appelle TANSAT. Et le CNES a deux projets, à la fois sur le CO2, qui s'appelle donc Microcarb, avec les Britanniques, et Merlin pour le méthane, avec l'agence spatiale de l'Allemagne. Donc voilà, nous avons un vrai défi à relever. C'est un défi à la fois technologique, parce qu'il faut des instruments très performants, capables de mesurer des variations de gaz à effet de serre très petites, de moins du pourcent de ces variations, doivent être suivies depuis l'espace, hein, à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre. On s'intéresse, ce qui est aussi difficile, c'est qu'on va s'intéresser à ce qui se passe près de la surface, justement, puisque c'est ici que c'est près de la surface que se passent les échanges de gaz à effet de serre entre les puits et l'atmosphère et les surfaces, hein, ou les océans. Donc ça, c'est aussi un défi. Puis il y a un gros défi scientifique pour bien comprendre les mesures et tout ce qui peut perturber ces mesures. Donc là, on a vraiment besoin de s'appuyer sur la communauté scientifique pour extraire de ces mesures le signal qui va intéresser le scientifique. Et effectivement, je pense que le challenge à relever d'être capable de vérifier les émissions des pays est un challenge très difficile. Mais je pense qu'il faut continuer à y travailler, continuer à améliorer les instruments, continuer à améliorer les modèles de transport, puisque ce qui est important, c'est que effectivement les gaz à effet de serre vont être transportés dans l'atmosphère. Donc pour être capable de définir où ils ont été émis, il faut connaître très précisément ces transports atmosphériques. Donc c'est la météorologie, hein, qui nous donne tout ça. Donc voilà, il faut progresser dans tous les domaines en parallèle. Et les agences spatiales doivent également se coordonner pour permettre à toutes ces mesures qui sont faites de par les différentes agences spatiales d'être parfaitement bien interétalonnées. D'ailleurs, le colloque a beaucoup insisté sur ce besoin d'interétalonnage de ces mesures qui sont faites par différents capteurs développés par différentes agences spatiales.
Et l'autonomie opérationnelle est importante dans ce domaine, puisque tout est partagé à travers le monde. Pourquoi la France se lance-t-elle seule sur ces deux projets dont vous parliez?
Alors, on n'est pas seul. Microcarb, C'est une mission qui va s'inspirer de ce qui a été fait par les Américains sur Oko. Et puis on a utilisé un retour d'expérience de la mission Oko qui commence à délivrer les premiers résultats pour améliorer l'instrument microcarb. Donc on a des innovations technologiques. On a également beaucoup travaillé sur la compacité de l'instrument afin de permettre un jour peut-être d'avoir des constellations de ce type d'instrument, hein, puisque vous savez que plus le satellite est gros, plus ça va être cher pour l'envoyer dans l'espace. Donc la compacité des instruments, le fait d'avoir un petit satellite de la classe moins de 200 kilos, c'est un atout. Donc voilà, ça c'est l'atout de microcarb. Et puis Merlin, c'est une première scientifique. On va mesurer le méthane avec un instrument qu'on appelle un LIDAR, qui émet un laser en fait, hein, qui va permettre de suivre le méthane de façon très précise et de s'affranchir d'un certain nombre d'artefacts, de perturbations de la mesure grâce à cet instrument LIDAR. Donc c'est un instrument qui n'a jamais volé. Donc là, on est sur des premières scientifiques pour faire avancer la connaissance scientifique, pour faire avancer les technologies qui, demain, on l'espère, nous donneront la possibilité d'avoir des systèmes plus opérationnels, comme on l'a fait, exactement comme on l'a fait pour la météorologie.
Deux projets du CNES, donc, à l'horizon de 2020. Merci beaucoup, Pascal Ultré-Guérard, directrice adjointe de la programmation, l'international et la qualité au CNES. On l'a dit, c'est l'été, ce week-end, hein, du nord au sud, un répit de quelques jours dont personne ne se plaindra, bien sûr. Et partout, on en profite, comme ici, dans les rues de Tours, Jean Lebray.
Pour les cafetiers, pas question de ranger les terrasses.
Elle va rester là encore une bonne partie de l'année. Et puis si c'est comme tous les ans en ce moment, on n'a pas vraiment de vrais gros hivers avec des gros froids. Donc on va rester en terrasse un peu toute l'année. Ouais.
Romain Séché, le gérant des Trois Rois, Place Plumereau.
On n'est pas rentré dans la grande période du chocolat chaud encore. Donc voilà, on reste encore sur pas mal de bières, du vin, des cocktails. Voilà, donc c'est... Ah, il y a du café, mais c'est... voilà. Le volume de thé n'a pas explosé encore.
Un ciel bleu, un soleil généreux. À l'heure du déjeuner, les bancs sont pris d'assaut. Aurore se détend.
Je suis en train de lire. Je profite des rayons de soleil qui nous sont accordés pour continuer à profiter de l'extérieur.
Ça ne serait pas le cas s'il faisait un temps plus moche? Vous seriez où à cette heure-là?
Je serais chez moi. Probablement chez moi, devant la télé ou en train de faire mon ménage, donc c'est très bien. On sent plutôt pas mal, les gens sont apaisés. Voilà, on flâne un peu, on traîne, on oublie un peu le temps, ça fait du bien. Je me sens plus gaie et je prends plus le temps de profiter de ce qui se passe autour de moi.
Et cette douceur va durer au moins jusque mardi en Touraine.
En Touraine comme partout quasiment, les prévisions météo dans un petit instant. D'abord la prescription culturelle de ce samedi qui nous emmène à Bordeaux où se déroule actuellement le Festival des Arts de Bordeaux. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Yves.
Vous y étiez cette semaine et vous y avez vu la création Haskell Junction au Théâtre National de Bordeaux.
C'est une pièce de Renaud Cogeau qui nous fait découvrir une ville tout à fait étrange. Elle s'appelle Stansted. C'est une ville frontière entre les États-Unis et le Canada. Et cette ville, elle est traversée par une ligne de démarcation qui sépare les rues et également le théâtre de la ville. Il y a même carrément marqué au sol du théâtre une grande ligne noire pour délimiter la frontière entre les États-Unis et le Canada. En fait, la scène est au Québec et la salle est aux États-Unis.
Et les douaniers au milieu.
Et les douaniers au milieu et Renaud Cogeau au milieu parce que lui, il a enquêté. Et son spectacle, c'est à la fois du théâtre mais également du cinéma parce que dans la deuxième partie, il y a un documentaire qui raconte ces anecdotes incroyables sur cette ville.
Alors il y a cette rue qui s'appelle la rue Canusa, donc Canada-USA. D'un côté, les habitants sont américains et de l'autre côté, les habitants sont canadiens. Depuis le 11 septembre, les choses se sont quand même bien tendues puisque auparavant, on pouvait aller passer une soirée chez l'un ou chez l'autre en franchissant la frontière sans problème. Et depuis cet événement malheureux, eh bien, il faut absolument se rendre au poste frontalier pour signifier la soirée qu'on a envie de passer chez le voisin en face.
Ça signifie qu'on peut même pas aller d'un côté à l'autre du trottoir.
Ça, c'est interdit, parce qu'il y a quand même un accès, il y a une franchise entre le Canada et les États-Unis, c'est-à-dire que le théâtre Haskell, l'entrée principale, est aux États-Unis. Mais il y a une autorisation pour rester sur le trottoir, franchir donc le territoire américain et rentrer directement au théâtre. On n'a même pas le droit de stationner sur le fameux trottoir en question. Et si par malheur vous franchissiez ce petit bout de trottoir, eh bien vous êtes susceptible de payer une amende de 5 000 $, ce qui n'est pas rien. Et beaucoup de touristes, notamment une chinoise, quand on y était, a franchi ce trottoir et s'est vu interroger pendant 3 heures avec une amende effectivement de 5 000 $ à la clé.
Voilà, Yves, c'est du Kafka, mais non, Pourtant c'est la réalité.
Haskell Junction au Théâtre National de Bordeaux jusqu'au 21 octobre. On reste en Amérique du Nord, Stéphane, avec d'autres idées de sortie ce week-end.
Vous avez reconnu la musique, Yves ? Vous
qui
êtes
ne,
un spécialiste.
Qui ne reconnaît pas West Side Story, bien sûr.
Voilà, c'est la célèbre comédie musicale. Elle est de retour à Paris depuis jeudi soir, à la Scène Musicale. C'est la production qui avait été présentée au Châtelet, mais là, il y a une nouvelle distribution et vous avez jusqu'au 11 novembre pour vous glisser dans le New York de Bernstein. Et puis, on ne quitte pas New York, on part au célèbre MoMA, le musée d'art contemporain, qui se déplace à Paris pour une grande exposition à la Fondation Louis Vuitton. C'est jusqu'au 5 mars. Le MoMA est actuellement en travaux et en France, il présente 200 œuvres de ses collections.
Stéphane Capron, et j'ajoute à voir ce week-end ou les suivants le spectacle de Gauthier Fourcade, des mules de Raymond Devos. Liberté, c'est le titre. C'est à la manufacture des Abbesses à Paris. Bonne journée au soleil.
Merci à vous Yves Decamp. On vous retrouvera ce soir. Et oui, le soleil brille et c'est ce que va nous confirmer Jean-Michel Gonaski de Météo France.
La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Atlantique. Rendez-vous sur atlantique.fr.
Du beau fixe ce week-end sur la quasi-totalité du pays. Cet après-midi, seule la partie côtière du golfe du Lion va garder la tête dans la grisaille avec à la clé quelques gouttes possibles, des températures proches de 20 degrés entre l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Il est prévu 24 à 25 de la Provence à la Corse, près de 30 degrés sur le Béarn et la Bigorre, 28 sur un large quart sud-ouest, 25 à 26 du Val-de-Loire au centre et en Rhône-Alpes, 21 degrés sur les plages de la Manche et 22 à 24 du nord de la Loire à la frontière allemande. Demain, persistance de ces températures tout à fait exceptionnelles, avec toujours un petit bémol pour le golfe du Lion, où la grisaille emportée par le vent marin aura du mal à se disperser. Les nuages bas seront également nombreux jusqu'en milieu de matinée sur l'ouest de la Provence et du Tarn à la Haute-Garonne en raison du vent d'autant sensible. Ailleurs, après les brouillards, le bleu sera dominant et on notera pour demain soir et surtout pour la nuit suivante un petit renforcement du vent vers 80 km/h sur les côtes atlantiques.